RCF Sud Belgique présente. RCF, la joie se partage.
On se retrouve cette semaine pour parler pédagogie et réforme, pour une réforme de la pensée pédagogique. Réflexion autour de la dispersion des savoirs, c'est le dernier titre écrit par Stéphane Lourian, qui est professeur au campus Erasme, professeur émérite, je suppose, et qui écrit aussi, il est en faculté de médecine. Bonjour Stéphane Lourian.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous retrouver. On vous avait rencontré il y a maintenant, je crois, il y a bien 2 ans, hein, par rapport à un essai, justement, sur le système universitaire. Ce livre-ci, pour une réforme de la pensée pédagogique, est édité chez l'Harmattan. Alors, un nouveau projet, une nouvelle réflexion, justement, sur cette pensée pédagogique. Il y a beaucoup de réformes actuellement, mais celle que vous proposez n'est pas nécessairement celle qu'on voit tâtonner et essayer d'être mise en œuvre dans nos programmes politiques.
Non, les choses que je propose tiennent un peu de l'utopie, et ce livre est un peu à considérer comme la suite du précédent, hein. Nous avions eu ce très agréable entretien où je m'étais limité à un certain nombre de constats, et je pars de nouveau d'un constat, et à partir de là, j'essaye de dégager des solutions qui, dans un monde idéal, permettraient d'obvier ce constat. Et le constat part d'une observation que j'ai un jour faite en animant des travaux pratiques d'embryologie où les étudiants regardaient des tissus au microscope, où ils n'étaient plus capables, parce que c'était des travaux pratiques d'embryologie, de reconnaître les mêmes organes qu'ils avaient identifiés aux travaux pratiques d'histologie, lors même qu'il s'agissait des mêmes organes, mais que l'intitulé du cours était différent. Et ça m'a conforté dans une conception que j'avais déjà, que les étudiants ont un savoir qui est extrêmement cloisonné, extrêmement fragmenté, mais que le système entretient cette dispersion du savoir, ce cloisonnement, cette fragmentation, dans la mesure où on continue d'enseigner en silo, comme disent les pédagogues, c'est-à-dire des enseignements parfois répétitifs, parfois contradictoires, donnés par toute une série de professeurs qui s'en tiennent à leur matière et qui ne trouvent pas les moyens, en quelque sorte, de pratiquer la transversalité, la transdisciplinarité, et d'enseigner un savoir total, englobant.
Et du coup, transférable aussi, hein, ça pose directement la question du transfert, l'exemple que vous prenez au début du livre, hein, justement, de cette épée, et qui tranche par rapport à ce qu'on pratiquait auparavant dans l'enseignement universitaire, avec ces fameux examens qui, le même jour, interrogeaient sur plusieurs cours à la fois et qui avaient quelque part leur cohérence.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on regarde les règlements universitaires, on voit encore la première année comporte une épreuve. Il y avait une épreuve, en fait c'était plusieurs examens, et à l'époque les étudiants passaient, mais c'est une époque que je n'ai même pas connue moi-même, pratiquement tous leurs examens en un jour ou deux. Il est arrivé même que les examens puissent être devant plusieurs examinateurs, et fort heureusement, dans certaines sections, ça existe encore. Par exemple, dans l'enseignement de la médecine au Canada ou dans certaines facultés françaises, ils ont des examens terminaux sous forme d'une épreuve intégrée où ils passent devant un jury et ils doivent résoudre une situation clinique, mais qui ne se limite pas à de la pédiatrie, de la gynécologie, de la chirurgie, mais un patient dans sa totalité est montré qu'ils ont une connaissance minimale et suffisante de toutes les matières, puisque finalement on forme des professionnels. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Or, les étudiants, maintenant, quand ils passent un examen X, eh bien, ils ont déjà tout oublié le lendemain pour passer l'examen Y, et l'examen Y n'a plus le droit, sinon il y a des recours, de l'interroger sur la matière du cours X, sous prétexte que ce sont des épreuves différentes. C'est absurde, puisqu'on est censé former des gens qui vont sortir avec des compétences et des connaissances générales et qui sont transposables dans leur futur métier.
Oui, parfois même sur plusieurs années, hein, qu'on peut réussir maintenant les cours qui normalement figurent au programme d'une même année universitaire. On n'est plus le même jour, on n'est même plus la même année où il faut réussir l'examen finalement.
Tout à fait, ça aggrave complètement le système parce que ça fait fi des prérequis. Hein. On peut réussir un cours partie 2 en ayant raté partie 1. Alors on va nous objecter, oui, mais vous avez la possibilité de mettre des prérequis. Le seul problème, c'est que si vous avez un nombre de crédits qui ne colle pas, vous devez laisser tomber les prérequis et en arriver à des absurdités pédagogiques.
Oui, dans le système universitaire que vous décrivez, ça fait face aussi un peu à l'hyperspécialisation du discours parfois aussi, puisqu'on, ou en tout cas vous interrogez aussi la manière dont on devient professeur au niveau universitaire, avec peu de formation, voire pas du tout, pédagogique, justement, un des mots-clés de votre livre.
Oui, tout d'abord, il reste encore cette conception qu'un excellent chercheur fait un excellent enseignant. C'est pas toujours vrai, ça peut arriver, mais un excellent chercheur peut être parfaitement incapable de transmettre correctement une matière dans un grand amphithéâtre et est peut-être plus prédisposé à donner des cours de troisième cycle à des étudiants judicieusement bien formés et qui ne posent pas trop de problèmes pédagogiques. Ça, c'est une première chose. Ensuite, à l'université, il n'y a pas d'obligation réelle de suivre une formation pédagogique. Alors, on organise des formations pédagogiques, on incite bien sûr les nouveaux enseignants à suivre des formations pédagogiques, mais assez curieusement, ces formations pédagogiques sont consacrées essentiellement à des formations techniques, c'est-à-dire qu'on leur explique comment utiliser les projections, comment utiliser les ressources électroniques, comment utiliser les systèmes de vote comme WCLAP, etc. Mais par exemple, à aucun moment, ça a l'air d'un truisme ce que je veux dire, mais à aucun moment on leur apprend, par exemple, une diction correcte, un rythme de discours que l'étudiant puisse suivre. Et au contraire de ce qui se passe dans l'agrégation de l'enseignement secondaire, on ne leur apprend pas non plus les grandes règles de la pensée pédagogique, l'évolution de la pensée pédagogique. Qu'est-ce que le constructivisme? Qu'est-ce que le cognitivisme? Le socio-constructivisme, etc. Toutes choses qu'il faut comprendre, parce que pour enseigner à des élèves, il faut connaître les élèves, savoir comment ils fonctionnent. Demander à n'importe quel professeur d'université qui ne soit évidemment pas dans le domaine de la pédagogie, qu'est-ce que la métacognition, c'est-à-dire la manière que les apprenants ont de pouvoir maîtriser leur stratégie d'apprentissage, ils ne le savent pas, sauf ceux qui volontairement se sont inscrits à des formations comme ça, mais ils sont peu nombreux parce qu'ils estiment parfois qu'avoir une compétence disciplinaire suffit. Attention, je n'irai pas jusqu'à ce que font les Québécois qui estiment que la compétence pédagogique est plus importante que la compétence disciplinaire. Il faut bien sûr avoir une connaissance encyclopédique de sa matière pour enseigner, mais ça suffit pas toujours.
Alors vous avez sorti un mot important, un gros mot, métacognition. On peut en sortir un autre qui revient dans votre livre, c'est l'épistémologie. On peut peut-être expliquer ce que c'est, mais il est aussi au cœur de votre livre. Réfléchir en fait à comment on apprend sa matière, à comment on peut, sur quoi repose le savoir de sa branche.
Ça revient à ce que je disais tout à l'heure en parlant du constructivisme. Le constructivisme a deux versions. Il y a le constructivisme pédagogique, qui veut qu'une connaissance se construit. Elle se transmet pas, elle se construit. Et quand on parle de socio-constructivisme, on parle d'interaction entre les apprenants, entre eux, parce qu'ils peuvent apprendre grâce aux autres, d'où l'importance des travaux collectifs, par exemple. Mais le socio-constructivisme concerne également l'établissement des connaissances scientifiques. Hein, l'établissement des connaissances scientifiques, elles se sont construites au cours du temps, et elles se sont construites par des interactions entre les différents grands scientifiques qui publient, on réfute les anciennes théories, il y a des congrès. Et donc le socio-constructivisme concerne à la fois la construction de la connaissance, et là on est en plein dans l'épistémologie, mais aussi la manière dont les étudiants vont faire leur cette connaissance, vont s'approprier cette connaissance. Finalement, ce sont deux phénomènes à des échelles différentes, mais qui opèrent en parallèle.
Fils de bourgeois ou fils d'apôtre, tous les enfants sont comme les vôtres. fils de César ou fils de rien. Tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Ce n'est qu'après longtemps. Mais fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire. Sous voûte d'or, sous toit de chaume, tous les enfants ont un royaume. Un coin de vague, une fleur qui tremble, un oiseau mort qui leur ressemble. Fils de sultan ou fils de fakir, tous les enfants ont un empire. Ce n'est qu'après, longtemps après. Mais fils de ton fils ou fils d'étranger, tous les enfants sont des sorciers. Fils de l'amour, fils d'amourette, tous les enfants sont des poètes. Ils sont bergers, ils sont rois mages, font des nuages pour mieux voler. Fils de ton fils ou fils d'étranger, tous les enfants sont des sorciers. Ce n'est qu'après, longtemps après. Mais fils de bourgeois ou fils d'apôtre, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien.
Vous qui êtes médecin, comment vous voyez l'apprentissage justement de la biologie ou des sciences au sens large, mais que ce soit dans le primaire, le secondaire, parce que c'est extrêmement complexe, surtout si on veut l'insérer dans une démarche critique, hein, c'est aussi un mot important. Comment vous voyez ça?
La question est difficile. Les sciences, c'est à la fois de la connaissance, c'est à la fois du constructivisme, parce qu'il est important de savoir comment cette connaissance s'est établie. Par exemple, la théorie de l'évolution repose sur toute une série de preuves, et c'est pas juste une théorie comme disent les créationnistes, il y a des tas de preuves. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les preuves embryologiques de l'évolution ». Mais la manière dont ça s'est construit doit être enseignée, ce qui est rarement le cas dans l'enseignement secondaire. Vous allez peut-être me dire que on enseigne la géométrie en partant d'Euclide et de Pythagore pour en arriver à la géométrie analytique. Moi, j'ai eu un cours comme ça, mais ça m'étonnerait qu'on ait encore un cours comme ça maintenant. Bon, alors, ça c'est une chose. Et donc, il y a aussi, bien sûr, des raisonnements et des savoir-faire. Il faut savoir résoudre des problèmes de génétique, il faut savoir résoudre des problèmes de physique. Et le problème est qu'on est passé d'un extrême à l'autre. En ce sens que, par exemple, les programmes des examens terminaux dans l'enseignement secondaire font appel à beaucoup de savoir-être et beaucoup de compétences, mais on leur demande plus grand-chose. Rappelle quand même qu'avant, il fallait pouvoir faire un herbier, connaître la systématique des plantes, la systématique animale. Maintenant, on n'ose plus poser de questions comme ça dans le secondaire, et quand ils abordent les cours à l'université, où il y a effectivement les savoir-faire, mais aussi des connaissances, ils sont complètement perdus. Donc, quelque part, on a perdu le fait qu'à l'âge où les élèves ont une grosse capacité de mémorisation, il faut profiter de cette capacité de mémorisation pour leur donner des connaissances extrêmement solides. Et donc, à l'inverse, par exemple, dans une discipline comme la physique, dans l'enseignement secondaire, on a l'habitude, en mathématiques et en physique, voire même en chimie, de leur donner des exercices préprogrammés, de n'exiger que les examens ne donnent que des exercices faits pendant l'année, c'est-à-dire des exercices sans surprise. Ce n'est pas des problèmes, ce sont des applications numériques, 220 volts, 10 ampères, combien d'ohms. Alors qu'un problème, c'est quelque chose auquel on ne sait pas répondre tout de suite. Il faut tourner, il faut trouver la méthode. Ils ne sont plus du tout habitués à faire ça. Et quand ils arrivent à l'université, on leur fournit un problème, c'est-à-dire quelque chose où on commence en disant « Comment vais-je faire ? Quelle loi est valable ? Que vais-je utiliser comme loi ?» Ils ne sont plus du tout habitués à faire ça. Ils ne sont plus habitués à manipuler l'incertitude, le doute. Et ça, c'est un grand problème. D'enseigner les sciences comme si c'était un donné immédiat et pas quelque chose qui a évolué. Éviter de leur donner des problèmes qui demandent à se torturer les méninges pour savoir comment les résoudre. Et sabrer sur les connaissances, les véritables connaissances factuelles qu'il faut connaître justement pour résoudre ces problèmes, c'est un grand nombre de défauts, je trouve, actuels de l'enseignement des sciences, sans parler, bien sûr, de la restriction en nombre d'heures, des classes beaucoup trop peuplées, et de l'impossibilité, par exemple, pour des élèves motivés, de dépasser le nombre d'heures de cours maximales d'une année. Si vous voulez, par exemple, choisir le maximum dans toutes les sciences et garder du latin, parce que j'estime que le latin est indispensable à la pensée, à la réflexion linguistique, eh bien, vous dépassez le quota d'heures et la situation financière des écoles interdit de faire ça.
Alors l'approche par problème, on en parlait quand même relativement beaucoup. Quand moi j'ai passé mon agrégation, on nous entraînait à faire des situations problèmes. On en est peut-être un peu en effet, voilà, ça a peut-être posé des problèmes sur le terrain ou je ne sais pas trop, parce que c'est vrai qu'on en parle moins pour le moment.
Oui. Alors là, si vous prenez une faculté de médecine comme Sherbrooke au Canada, que j'ai eu le plaisir de visiter, tout se fait en apprentissage par problème, sachant bien sûr que les premiers cycles de médecine au Canada se font dans des collèges, où ils ont encore les cours de sciences de base. Donc quand on parle d'études de médecine au Canada, ça commence un peu avec notre master, si vous voulez. Bon. Et là, ça marche très bien, parce que les étudiants sont hyper sélectionnés. Ils sont habitués à ça, ils sont habitués aussi à faire des portfolios, parce que ça c'est aussi important. Et en plus, tous les enseignants sont médecins, parce que c'est un master. Si vous essayez de faire ça, par exemple, dans les premiers cycles, ils ont essayé à Liège, il y a d'énormes problèmes, parce que vous devez faire ça par petits groupes pour que ce soit interactif. Il faut démultiplier les enseignants, ça coûte extrêmement cher. En plus, comme ça part de problèmes médicaux, il faut que tous les moniteurs d'apprentissage par problème soient eux-mêmes médecins, de préférence des médecins qui pratiquent la médecine et qui peuvent répondre à toutes les questions des étudiants et qui peuvent jouer la mise en situation. Or, dans nos enseignements de premier cycle, il y a de moins en moins de médecins. Il y a de moins en moins de médecins. Les plus brillants vont dans des pures carrières de recherche et ne sont pas intéressés par l'enseignement. Et de plus en plus, nos cours de chimie, de biochimie sont donnés par des chimistes. On a des cours de physiologie qui ne sont pas donnés par des médecins. Mes successeurs ne sont pas médecins pour les cours d'anatomie. Et donc, vous ne pouvez pas confier à des gens comme ça des apprentissages par problème sur des questions médicales générales parce qu'ils ne maîtrisent pas, si vous voulez, la discipline. Et donc, ils ont fait à Liège ce que le doyen de l'époque, mon collègue Bonhiver, appelait une révolution pédagogique, et je l'entends encore en parler à un congrès où j'étais à Sherbrooke, et maintenant ils en sont complètement revenus à cause des problèmes financiers, des problèmes d'organisation, parce que notre système rend ça très difficile à mettre en œuvre, et de surcroît nos étudiants ne sont pas suffisamment sélectionnés dans le secondaire pour faire face à une autonomie pédagogique indispensable. Ils ont été trop habitués à faire du psittacisme, à répondre à des attentes claires, clairement exprimées, des problèmes qui ne les surprennent pas. Tout est déjà dans le programme. Et quand vous les lâchez, et je reviens à ce mot d'incertitude, ils sont extrêmement mal à l'aise vis-à-vis d'une certaine forme d'incertitude pédagogique, d'incertitude du raisonnement, comme d'ailleurs tout le système est mal à l'aise avec l'incertitude de la connaissance. Dans le livre, je parle de la cosmologie, je parle de la thermodynamique, de la théorie du chaos, etc., qui arrive à une grande incertitude en sachant finalement qu'il y a énormément d'événements en termes de microphysique ou de cosmologie qui ne sont pas des événements prédictibles par une forme de mécanique rationnelle. Et l'homme est conçu de telle manière qu'il a de grosses difficultés à admettre l'incertitude.
Et vous évoquiez aussi le portfolio qui est un exemple hein, de pratique pédagogique que parfois on essaye de mettre en œuvre justement pour inscrire cette transversalité d'apprentissage, cette pratique progressive aussi, cette autonomie de l'étudiant. Mais vous décrivez aussi qu'il y a pas mal de freins dans nos façons de fonctionner et dans la préparation des étudiants par rapport à cette pratique du portfolio.
Oui, à partir du moment où vous avez deux, trois personnes qui essayent d'imposer à une grosse masse d'utiliser un portfolio, et cette masse, c'est celle, certes, des étudiants, mais aussi de nos collègues, qui n'ont jamais été formés à ça, qui ne savent même pas ce que c'est le rocher de Sisyphe, vous imaginez bien. On avait tenté une expérience dans le master de spécialité en imagerie médicale, à l'époque où je siégeais avec deux collègues éclairés sur la question. Dans le comité d'organisation, si j'ose dire, on voulait remplacer des examens à choix multiples interuniversitaires qui sont de véritables insultes faites à des étudiants qui sont déjà bac plus 11, hein, faire des QCM à des étudiants bac plus 11 en mélangeant des gens de l'ULB, de l'UCL, de Liège, etc. C'est une injure à ces gens-là, et donc de remplacer par un portfolio. Eh bien, la seule qui nous a fait un portfolio correct est l'étudiante qui a fait ses études en Angleterre, ses études secondaires en Angleterre, parce qu'elle avait l'habitude de faire ça dans les pays anglo-saxons, où vous avez un portfolio qui vous suit depuis le primaire et qui peut même encore être utilisé dans la vie professionnelle pour vous vendre auprès d'employeurs. C'est toute une démarche pédagogique, mais manifestement, ça ne passe pas bien, et quand il y a eu un changement à la tête du master de spécialité en imagerie médicale, celle qui a succédé à celui qui le présidait à l'époque, la première chose qu'elle a faite, c'est supprimer ça. Alors, ça demandait évidemment qu'il y ait des moniteurs qui suivent les portfolios à distance et qui puissent conseiller. Ça demandait trop de temps à ces messieurs dames qui étaient occupés à des choses beaucoup plus importantes. Et par ailleurs, quand on a voulu instaurer le portfolio dans les stages du master, eh bien, ça marchait pas parce que l'informatique facultaire n'était pas matériellement en situation de pouvoir gérer tout ça.
Ça rappelle des souvenirs, je crois qu'on n'en est pas beaucoup plus loin maintenant dans la plupart des facultés. Hein. Ça pose aussi évidemment des problèmes peut-être budgétaires, mais il n'y a pas que ça derrière.
Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de paresse, d'incompétence et du manque d'envie de s'investir dans quelque chose de nouveau et d'une certaine peur de ce qu'on ne connaît pas.
Alors pour terminer, j'ai encore une question qui me vient, mais il y en a plusieurs, vous aurez le mot de la fin aussi. Vous parliez au tout début d'utopie. Comment justement, vous qui êtes maintenant émérite, vous voyez l'avenir pas positivement, si j'en crois le mot utopie, ou bien vous arrivez quand même à vous dire on peut rebondir? Comment vous voyez les choses pour la suite?
C'est la question difficile. Quand je vois comment les choses évoluent maintenant et comment on traite l'enseignement, ne fût-ce que l'enseignement secondaire, et comment sont traités les professeurs de l'enseignement secondaire actuellement. C'est une question d'actualité, il y a des manifestations tous les jours. Je suis particulièrement pessimiste, parce que tout ce qui se passe tend à accréditer l'idée que les gens se font, que les professeurs sont des gens paresseux, qui enseignent pendant les heures de cours et qui font rien en dehors. Je trouve cette réforme particulièrement maladroite, et autant je soutenais notre ministre, Madame Glatini, quand elle était ministre de l'enseignement supérieur, notamment eu égard à la correction du décret paysage, je l'ai énormément soutenue, j'ai même eu des contacts avec elle. Quand je vois ce qui se passe maintenant dans le secondaire, je me demande quand même ce qui lui passe par la tête. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis aussi pessimiste quand je vois la manière dont sont traités les professeurs d'université quant à leur retraite. Je suis bien content d'être parti avant que ça n'arrive. Je vois que, je dirais, l'environnement socio-économique ne fait que se dégrader. La relation entre les professeurs et les étudiants se dégrade aussi parce que les étudiants considèrent comme un droit sacré que de réussir quand ils n'en ont pas les compétences. J'ai écrit quelques cartes blanches sur les situations infernales dans lesquelles se trouvent les professeurs en période de recours, parce qu'ils font l'objet d'injures et véritablement de lazzis et de crachats de la part de quelques mauvais étudiants qui vous enlèvent parfois l'envie d'enseigner. Mais tout utopiste qui se respecte se dit que tout peut toujours aller mieux et que les bonnes idées... Je ne dis pas forcément que celles que je développe dans le livre sont les meilleures qui soient, mais les bonnes idées finissent par percoler et que l'avenir appartient peut-être à ceux de bonne volonté qui essayent de faire quelque chose. Et donc, un utopiste croit toujours que l'humanité peut être meilleure, que l'homme peut être meilleur et qu'il faut contribuer à mettre ensemble toutes les pierres qui vont constituer notre temple. Mais parfois la réalité le font déchanter et l'amène parfois à dédaigner un peu ce qui se passe dans la réalité, à fréquenter les bons vieux anciens auteurs pour essayer de trouver quelque réconfort dans d'autres utopies que la nôtre personnellement, dont certaines sont évidemment encore plus respectables.
Je vous laisserai le mot de la fin, et pendant que vous y réfléchissez, je rappelle le titre du livre, « Pour une réforme de la pensée pédagogique, réflexion au pluriel autour de la dispersion des savoirs », par donc Stéphane Lourian dans la série les éditions L'Armatan. Voilà, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, ou une des bonnes idées que vous aimeriez qu'on retienne, ou peu importe.
Je dirais que l'idée, c'est qu'il ne faut jamais déposer ses outils.
Ça veut dire quoi ?
Que tout est toujours à faire et qu'il ne faut jamais s'arrêter d'essayer, j'ai parlé de Sisyphe tout à l'heure, de remonter la pierre au sommet de la colline.
J'y suis entré tout petit sans le savoir, comme tout le monde. Derrière ces murs, j'ai grandi et j'ai observé chaque seconde. J'y suis entré naturellement, personne m'a demandé mon avis. J'ai étudié son fonctionnement, ça s'appelle l'école de la vie. Faut savoir qu'ici tout s'apprend, les premières joies et les colères. Et on ne sort jamais vraiment de cet établissement solaire. À l'école de la vie, il y a des matières obligatoires. Et certains cours sont en option pour te former à ton histoire. La vie démarre souvent avec le prof d'insouciance. Il est utile, il t'inspire et puis il te met en confiance. Mais juste après vient le cours des responsabilités. Tu découvres les maux de tête et les premiers contrôles ratés. Le cours de curiosité est un passage important. En le comprenant assez tôt, j'ai gagné pas mal de temps. Puis j'ai promis que je m'inscrirais dans le cours de promesses. J'ai parfois été fort dans le cours de faiblesse. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne. Tout s'entend, on s'entraîne, des matières par centaines. C'est l'école de la vie, j'ai erré dans ses couloirs. J'ai géré dans ses trous noirs, j'essaierai d'aller tout voir. Cours de grosses galères, j'ai eu quelques très bonnes notes. C'est ce genre de résultat qui te fait connaître tes vrais potes. Ça m'a donné des points d'avance et une sacrée formation pour le cours de prise de recul et celui d'adaptation. Je me souviens du cours d'espoir, j'avais des facilités, à moins que je ne confonde avec le cours de naïveté. Il y avait une filière mensonge et une filière vérité. J'ai suivi les deux cursus, chacun à son utilité. En cours de solitude, j'avais un bon potentiel. Se satisfaire de soi-même est un atout essentiel. Mais j'aime bien aussi l'ambiance qu'il y avait dans le cours de bordel. J'ai vite compris que l'existence se conjugue mieux au pluriel. C'est qu'en cours d'humanité, j'ai eu deux très bons professeurs. On a eu des travaux pratiques tous les jours, moi et ma sœur. J'espère que petit à petit, j'ai bien retenu leurs leçons. Et qu'à l'école d'une autre vie, je transmettrai à ma façon. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne. Tout s'entend, on s'entraîne, des matières par centaines. C'est l'école de la vie, j'ai erré dans ses couloirs, j'ai géré dans ses trous noirs, j'essaierai d'aller tout voir. En cours d'histoire d'amour, j'ai longtemps été au fond de la classe. Le cul contre le radiateur, j'ai bien cru trouver ma place. Mais en pleine récréation, alors que je n'attendais rien, j'ai reçu ma plus belle leçon et le prof m'a mis très bien. Cours de liberté, il y avait beaucoup d'élèves en transe. Le cours d'égalité était payant, bravo la France. Pour la fraternité, il n'y avait aucun cours officiel. Il n'y avait que les cours du soir, loin des voies institutionnelles. Alors on saigne, on cicatrise, on se renseigne, on réalise les bons coups et les bêtises, on s'allie, on se divise. Moi, pour comprendre l'existence un peu plus vite ou un peu mieux, j'ai choisi le cours d'enfance en ville et j'ai même pris l'option banlieue. Reste qu'en cours de bonheur, le prof était souvent malade. On s'est démerdé tout seul, on a déchiffré ses charades. Autodidacte en sentiment, il n'y aura pas d'envie sans piment. Dans mes cahiers en ciment, moi j'apprends la vie en rimant. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne, tout s'entend, on s'entraîne, des matières par centaines. C'est l'école de la vie, j'ai erré dans ces couloirs, j'ai géré dans ces trous noirs, j'essaierai d'aller tout voir.